France Inter.
Explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
Si vous aviez besoin de prendre la tangente pour éviter de sombrer, de vous perdre pour vous retrouver, de changer d'air pour mieux respirer et alléger un chagrin devenu trop écrasant, quelle destination choisiriez-vous? La journaliste Marie-Hélène Freisset a choisi, elle, de s'enfoncer dans le dédale d'îles et de fjords englacés le long de la côte nord-ouest de l'Amérique. Elle est partie de Vancouver, au Canada, pour rejoindre 3000 km plus au nord, Anchorage, en Alaska. Pour ce voyage de deux mois, elle n'avait pas planifié grand-chose. Marie-Hélène Freisset voulait simplement larguer le passé, s'alléger du poids d'un deuil devenu trop lourd à supporter. Mais la destination choisie ne devait rien au hasard. Tout au long de sa carrière, la journaliste à France Culture a consacré beaucoup de ses reportages aux peuples autochtones d'Amérique. Avec ce nouveau voyage, elle souhaitait aller à la rencontre des habitants ancestraux du Nord-Ouest américain, les Amérindiens et les Inuits. Dans un joli livre intitulé « Alaska, l'ultime frontière » aux éditions Albin Michel, Marie-Hélène Freisset raconte son périple en solitaire à travers les terres sauvages et le mythique Nord-Ouest de l'Amérique et les rencontres qui ont émaillé son errance. Cet après-midi, elle nous emmène au hasard des pérégrinations et de ses réflexions jusqu'aux confins de l'Alaska. Elisabeth Rouvé a préparé cette émission, David Leprince la réalise avec l'aide de Paul Laporte et à la technique, c'est Mathias Saléon. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
On s'imagine que l'Alaska est constamment un territoire qui est recouvert de neige ou de glace. Évidemment, dans cette partie, en tout cas au sud, il y a quand même des saisons.
Oui, nous avons quatre saisons, printemps, été, automne, hiver. Le printemps et l'automne, tu sais, sont très très courts.
Alors qu'au nord de l'État, finalement, c'est quasiment polaire là-haut.
Le climat du nord est plus polaire. On y trouve d'ailleurs des ours blancs. Il y a du permafrost sur le sol qui est constamment gelé. Ici, le sol se découvre. Là, tu vois, on est juste au moment de l'année où il est complètement vert.
C'est incroyable, on a vraiment quitté la civilisation en deux minutes, là. Yes.
Bonjour Marie-Hélène Freisset.
Bonjour Daniel.
On commence par un survol en avion de cette région qui vous attirait depuis longtemps, hein, l'Alaska. Et c'est aussi en la survolant à bord d'un petit avion biplace que vous l'avez entreaperçue et qu'elle vous a tapé dans l'œil, cette région.
Oui, j'avais fait quelques reportages, notamment dans le Yukon, qui est juste voisin de l'Alaska. Et puis j'étais allée une fois déjà, ou deux fois même, pour accéder au Yukon à Vancouver. J'avais entreaperçu cette magnifique côte. Et puis je connaissais, comme beaucoup d'entre nous quand même, la magnificence de l'art de la côte nord-ouest, qui est malheureusement trop peu connue en France, parce qu'on est toujours en attente d'une grande exposition, vous savez, ces magnifiques
ces
mâts totémiques, très sculptés. J'ai du mal à trouver le mot en français parce que c'est tout le temps totem pole qui revient. J'ai rencontré des sculpteurs, d'ailleurs de magnifiques sculpteurs. Donc, j'avais aussi, pour France Culture et pour Géo Magazine, rencontrer à Paris un certain nombre d'auteurs amérindiens ou de leaders amérindiens ou de chamans, de gens enfin qui étaient porteurs, si vous voulez, de la parole de leur peuple et des liens d'amitié s'étaient noués. Ouais. Donc on avait en quelque sorte rendez-vous.
C'est ça.
Ils m'avaient tous dit ou elles m'avaient toutes dit si tu viens surtout fais-nous signe, on te montrera, etc. Donc tout ça j'ai engrangé pendant des années.
Ouais,
puis un jour je suis passée à l'acte.
C'est ça. Hein. Entre l'appel de l'Alaska, ce moment où vous dites « un jour j'irai » et le moment où finalement le rêve devient une destination, un vrai voyage, il y a du temps, Il a fallu maturer cette envie d'aller jusqu'en Alaska.
Ce désir, surtout qu'il s'agissait d'un voyage que je voulais faire de manière très libre, avec un timing qui n'était pas verrouillé. Et donc, ça, c'était très différent de ce que je faisais quand j'étais en reportage. Vous le savez, vous, Daniel, vous êtes aussi reporter. On a quand même une obligation de résultat et un timing. Donc, c'est pas du tout la même chose quand on a quelques points comme ça de rencontre prévue et encore pas toujours fixé dans le temps et qu'on part en se disant bah voilà, à la fortune de ce que je rencontre.
Place à l'improviste. Vous écrivez, je voulais arriver où je suis étrangère, choisir une région du monde que je ne connaissais pas ou du moins que je n'avais fait qu'effleurer et qui m'avait laissé sur ma faim, être porté par des rencontres de hasard, prendre mon temps. Tout mon temps, tel était tout l'esprit de cette échappée. Enfin prendre votre temps.
Oui, c'est ça. Et puis le faire en solitaire, ce que j'avais jamais fait, parce je voyageais presque toujours en équipe, ce qui parfois était très agréable, mais qui est forcément un petit peu contraignant. En plus, avec mon aspect actuel, qui est l'aspect d'une femme, entre guillemets, d'un certain âge.
Alors ça revient régulièrement au fil des pages de votre livre sur votre âge, vous en parlez très régulièrement.
Mais parce que je sens l'attitude des gens. Ouais. Si vous voulez, l'attitude des gens, elle est conditionnée par le fait que j'ai des cheveux blancs. Quand je suis allée en Asie, je me suis fait littéralement engueuler. C'était il y a une dizaine d'années par des femmes de mon âge qui me disaient « Mais tu n'as pas le droit, tu devrais te teindre les cheveux parce que sinon tu acceptes l'idée que tu es vieille. » Donc moi, au contraire, je brandis mes cheveux blancs un peu comme un passeport. Et c'est vrai que ça marche assez souvent.
On aura l'occasion d'y revenir à vos relations. Alors, il y avait aussi les spécificités de cette côte du Nord-Ouest américain qui vous intéressait. Parce que vous, je le disais en introduction, au fil de vos émissions, de vos reportages, vous nous avez beaucoup parlé, vous avez voulu donner un peu la voix à entendre, la parole à entendre de ces peuples autochtones. Et là, sur cette côte ouest américaine, il y a une spécificité des peuples autochtones ?
Ils sont nombreux, c'est quand même 15% de la population, alors qu'au Canada, globalement, c'est 3%, c'est 5%, et aux États-Unis, c'est 3%. Donc, ils sont quasiment pas minoritaire dans ces régions-là, que ce soit la Colombie-Britannique, donc qui est la province canadienne dont la capitale est Victoria, mais dont la grande ville est Vancouver. Et au nord, en Alaska, ils sont extrêmement nombreux, combatifs, et je veux dire, sans problème sur leur identité. Car ce sont des peuples qui affirment leur identité de manière moderne. Et j'ai entendu ce matin sur votre antenne quelque chose qui m'a énormément choquée. J'ai entendu Marjane Satrapi parler des Indiens qui étaient tous alcooliques et drogués et qui parlaient du fait que l'on était passé de la sauvagerie à la civilisation. Donc je pense que une Iranienne fait peut-être partie du côté civilisation, mais qu'il faut un peu revoir ce vocabulaire-là aujourd'hui.
Bon, débat entre le soleil de Platon et le temps d'un bivouac en direct dans nos émissions. Pour revenir à ce continent américain, vous le dites sans embâge et très clairement dans votre ouvrage, et c'est vrai qu'on le perd peut-être un peu de vue, mais que c'est le continent, une terre qui n'a jamais été décolonisée. En fait, elle s'est faite coloniser, elle est encore sur cette histoire-là, sur ce processus-là.
Oui, parce que l'Afrique a été décolonisée, il y a des États-nations, aux États-Unis et au Canada notamment, mais dans l'ensemble des Amériques, la colonisation a bénéficié, entre guillemets, du fait qu'il y a eu un choc épidémiologique absolument énorme et que le contact avec l'Europe a signifié une perte de population dont on n'avait pas jusqu'à tout récemment envisagé l'immensité. C'est-à-dire qu'en gros, il restait une personne là où il y en avait 10.
90% au terme du contact. Des Amérindiens sont morts du fait de la rencontre. Parfois, les bactéries, les maladies qui ont été transmises.
C'est ça, si vous voulez, le facteur létal le plus important en Amérique, aux Amériques. Alors évidemment, il y a eu aussi aussi des actions brutales de la part des, entre guillemets, conquérants.
Oui, il y a eu aussi des actions symboliques, mais qui veulent tout dire. C'est-à-dire que ces Blancs qui arrivent s'approprient les terres comme si personne n'avait jamais habité les lieux, renomment les lieux, c'est-à-dire que les villages, les villes, les montagnes, qui ont un nom parce que des gens y vivent depuis des millénaires, se voient rebaptisés d'autorité.
Alors ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur du continent. Mais comme le contact dans cette région du Grand Nord-Ouest est très tardif, les Européens, ou même les Asiatiques, parce qu'il en vient aussi de l'autre côté, n'ont pas la même attitude, et les autochtones eux-mêmes n'ont pas la même attitude. C'est-à-dire, il s'agit de rencontres entre des peuples quand même qui se savent souverains. Parce que le long de cette côte, il y a eu pendant longtemps une circulation avec très peu de bateaux, mais tout de même, des bateaux marchands qui venaient chercher notamment des fourrures. Et puis ça s'est un petit peu accéléré, et au XIXe siècle, ça s'est très largement accéléré. Mais la population de la côte nord-ouest, qu'elle soit amérindienne ou inuite plus au nord, avait pris l'habitude sur plusieurs générations de faire commerce avec les nouveaux venus. Bon, donc ça voulait dire, on est chez nous, vous venez de loin et nous échangeons. Nous sommes chez nous, enfin sans complexe, voilà. Mmh. Or, au fil du temps, d'abord, comme je vous disais, 15% de la population est restée. Il y a eu certainement, là aussi, un impact des épidémies, mais peut-être moins important, parce que c'est un monde qui était tout de même en contact avec les mondes polynésiens et l'Asie. Parce que quand vous regardez la carte, c'est là où l'Amérique et l'Asie se touchent.
Oui.
Et elles se touchent de très très près, car le détroit de Bering, c'est tout petit. Et ça veut dire aussi, et pensons-y maintenant en termes géopolitiques, qu'il y a une frontière commune entre les États-Unis et la Russie. On l'oublie un peu, et ça se situe là-bas.
Alors on aura l'occasion d'y revenir dans cette émission à cette frontière proche, et au fait aussi que l'Alaska, avant d'être un territoire américain, a été un territoire russe. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Sur les Amérindiens, il y a, même dans cette région-là, parce que vous rencontrez des gens à Vancouver qui vous racontent ça, ils ont eu à un moment quand même à faire face à l'acculturation, c'est-à-dire que quand ils allaient à l'école, alors il y a eu dans d'autres terres aussi les pensionnats où on cherchait à prendre ses enfants et puis à les couper de leur famille pour finalement leur faire complètement oublier leurs racines.
Oui. Au départ, il y a plein de cas de figure selon les communautés concernées, si vous voulez. C'est vrai que la première avancée non amérindienne dans le pays est russe. Ils arrivent depuis la Sibérie, puisque c'est ce qu'on pourrait appeler, en effet miroir à la conquête de l'Ouest, la conquête de l'Est. Mmh. On vient de l'Ouest, on va vers l'Est. Et qu'est-ce qu'on rencontre quand on est chasseur de fourrure? Eh bien, on rencontre à l'autre bout du continent asiatique un autre continent. Et c'est ce que veut dire d'ailleurs Alaska, Alieshka, la grande terre qu'on voit au-delà de l'horizon. Donc, les populations amérindiennes présentes depuis de nombreux millénaires voient arriver des gens avec lesquels parfois ils font commerce, mais les Russes veulent imposer leur à la fois leur profit, c'est-à-dire soumettre les populations pour les forcer à aller chercher la fourrure, notamment la fourrure de loutre, et puis conquérir du territoire. Alors les Russes commencent à descendre, après un peu avant d'ailleurs déjà, à bas bruit, mais après l'expédition de Bering, qui donne son nom à ce détroit, et ils commencent, venus de la Sibérie, à descendre le long de la côte. Et ils vont même aller très loin, puisqu'ils vont aller quasiment jusque dans l'actuelle Californie. Et là, ils soumettent les populations, enfin une fraction des populations, celle qui est près de la côte, et les oblige à aller chasser pour leur profit. Donc il y a une domination russe, mais qui est opéré par très peu d'hommes. Il y a quelques postes russes, il y a des implantations de compagnies de fourrures, il y a des mauvais traitements aussi des populations locales.
Mais alors ça,
Et ça devient un pays russe, mais pendant très peu de temps.
Pendant très peu de temps, et ensuite, les Américains vont avoir, eux, un comportement beaucoup plus brutal avec ces pensionnats dont je vous parlais.
Oui.
Même ceux qui ne vont pas dans des pensionnats, qui vont dans des écoles, vous Vous avez rencontré notamment Donald Assou, qui est un Amérindien. Il appartient à la nation des Kwakwaka'wakw.
Oui, c'est
pas facile.
On disait Kwakiutl autrefois.
Ah, c'est peut-être plus facile. Et il vous dit comment lui, dans sa jeunesse, c'est tout récent, on parle d'un passé très récent, on l'a empêché de parler sa langue, et notamment à l'école.
My parents,
mes parents utilisaient beaucoup notre langue à la maison.
And that way, you know, we were able to understand and speak.
Ainsi, nous avons pu parler notre langue entre nous.
Because at the time, we had the day school here at Cape Munch Village.
À cette époque, il y avait un externat ici. Donc j'allais à l'école tous les jours, mais dans cette école, on n'avait pas le droit de parler dans sa langue.
And I know there was times I had bruised ribs because.
Et parfois, moi, j'avais des bleus dans les côtes parce que.
That used to poke in your ribs, you know, when you were caught.
Le maître ou la maîtresse nous frappait avec un bâton lorsque l'on parlait notre langue. Et sinon, ils nous punissaient devant toute la classe aussi. Je vous parle de punition physique. Parler notre langue, c'était interdit à l'école.
Marie-Hélène Freyssé, on leur a appris à détester leur culture, à détester leurs racines, à détester ce qu'ils étaient à ces Amérindiens.
Oui, absolument. Ça s'appelle la déculturation, très agressive. Alors, dans le cas de Don Assou, qui vivait, puisque depuis notre rencontre, il est décédé, Don Assou a bénéficié de l'école de jour, ce qui fait que cette déculturation s'opérait à l'école, mais il rentrait chez lui, et chez lui, il parlait sa langue. Alors que dans le cas des pensionnats, on prenait les petits Indiens, on venait les chercher, c'était notamment la police montée qui arrivait, puis qui embarquait les trois ou quatre plus jeunes de la famille, et hop, à partir de 5 ans, on les mettait dans des pensionnats, et parfois ils restaient des mois, et même des années, sans rentrer chez eux.
Certains même ne revenaient pas, certains ils sont morts dans ces pensionnats.
Il y a eu tellement de maltraitance. Alors évidemment, c'est pas à 100% ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu aussi des pensionnats humains, mais la déculturation, en revanche, elle était programmée partout.
Et ça, c'est une blessure, mais vous l'avez au fil des années, des décennies où vous êtes intéressé à ces sujets, où vous avez tendu votre micro, vous vous êtes rendu compte que même, je pense à un représentant cri, des Indiens cri, que vous rencontrez, qui est arrivé assez haut placé pour représenter son peuple dans des instances internationales, et quand il vous parle de son enfance, ils font en larmes. La blessure ne s'est jamais refermée pour cet homme.
Mais ça, c'est une scène que j'ai vécue de très nombreuses fois. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis impliquée en tant que journaliste pour changer le regard qu'on peut avoir sur la réalité amérindienne. Parce que ça peut paraître très loin, mais je me sentais un peu obligée de témoigner auprès des miens. Les miens, c'est la France, c'est l'Europe. Et tout ça est quand même le résultat de notre implantation sur le territoire américain. Donc, c'est pas pour qu'on se batte la coulpe à perte de vue, c'est pour qu'on relise l'histoire avec un œil contemporain, qu'on comprenne que les revendications amérindiennes sont souvent légitimes, parce que les dépossessions de territoire, l'acculturation, le mauvais traitement, c'est encore d'actualité.
Vous aviez toutes ces questions en tête quand vous êtes allé sur cette côte nord-ouest américaine, mais il s'agissait aussi, on va le voir, d'un voyage en solitaire, sans obligation d'en rapporter un reportage ou des enregistrements, même si finalement vous en avez rapporté. C'était aussi un cheminement intérieur. Vous allez nous raconter votre errance improvisée et les rencontres que vous avez faites sur cette côte nord-ouest de l'Amérique. La journaliste Marie-Hélène Freyssé nous emmène jusqu'aux confins de l'Alaska cet après-midi, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Do you?
C'était le groupe inuit Tujat qui chantait Kyugaou It sur France Inter.
Ai-je vraiment eu raison de me lancer toute seule dans cette aventure ? La nostalgie de mon jardin bourguignon me serre parfois le cœur. La récolte des cerises semblait prometteuse cette année. Des centaines de petits fruits oblongs, rescapés des dernières nuits de gel, pendaient sous les branches. À cette heure, les dites cerises ont dû faire le bonheur de mes voisins ou des oiseaux. Je rate le début de l'été, les douces soirées de juin, le crissement des sauterelles, l'odeur des foins. Tout me manque soudain violemment. Se propulser ainsi à travers le monde, à la rencontre d'un pays qui ne vous attend pas, qui n'est en rien le vôtre. Est-ce ainsi qu'on guérit d'une absence ? Et si le remède était pire que le mal ?
Un extrait de votre livre, Marie-Hélène Freyssé, Alaska, l'ultime frontière, lu par Cécile Cayol et mis en musique par David Le Prince, telle une super production hollywoodienne. C'est un des moments de doute et de blues que vous traversez lors de ces deux mois de voyage. Parce que ça, vous ne l'éludez pas. Il y a aussi des moments formidables. Hein. C'est vraiment un livre de voyage. Mais il y a ces moments où vous n'êtes pas bien, vous demandez ce que vous faites là. Il y a celui-là, notamment, qui arrive au début du voyage.
Oui, c'est pas arrivé souvent au cours du voyage.
J'en ai quelques-uns en tête. À un moment, vous regardez, ouais. Vous êtes dans un ferry, un traversier, pour le dire à la canadienne ou à la québécoise, et vous regardez le sillage et vous dites, au moins, quand on baisse la tête en regardant le sillage du ferry, on ne me voit pas pleurer.
Oui, mais c'est pas un voyage qui a été constamment mélancolique. Je ne sais pas si c'est vrai pour tous les voyageurs ou tous les grands reporters, mais moi, j'ai toujours un moment très difficile, c'est quand j'arrive quelque part. À chaque fois, ça m'est arrivé encore récemment, vous voyez, pour les vacances et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis encore venue foutre là ? Je suis tellement bien chez moi. C'est vrai, dans ce jardin bourguignon que j'adore et où d'ailleurs, sur lequel je pose un peu le même regard, si vous voulez. C'est parce qu'un jardin, c'est une aventure aussi, vous voyez. Mais comme je connais ce moment... Le moment de l'arrivée qui est toujours, mais affreux, j'ai toujours 24 heures de déprime, après c'est fini. Bon. Je le connais donc, eh bien j'attends qu'il passe. Voilà. Il y en a eu deux ou trois comme ça, mais en règle générale, je me laissais porter. Il y avait une espèce de laisser faire, de laisser vivre, qui s'est installée, puisque justement, je n'avais pas d'obligation de résultat, je n'étais pas en reportage commandité.
Et ça pourrait, mais ça n'est pas du tout le cas, ça pourrait vous angoisser, parce qu'il y a plusieurs moments dans le livre où vous réalisez en gros, vous êtes ici, mais vous ne manquez à personne, vous n'avez plus aucune responsabilité, les enfants sont grands, personne ne vous attend ou ne compte sur vous nulle part dans le monde, mais ça pourrait être terriblement angoissant aussi.
Pas du tout, non, au contraire, je me suis dit, voilà, personne n'a besoin de moi, je peux disparaître corps et âme et bien, ça ne changera pas. Non, mais on évolue de ce point de vue-là avec le temps, parce que c'est quand même un des privilèges de l'âge, c'est que tout devient quand même plus léger. Enfin, faut arrêter de pleurnicher sur le passage du temps.
Et vous faisiez aussi, justement, pour alléger une peine. Hein, ce livre, il y a aussi un fantôme qui flotte tout au long des pages.
Oui, j'ai perdu l'homme que j'aimais et je voyais que je continuais à tourner un petit peu en rond. Et surtout, vous savez, quand on vit en couple et qu'on est heureux en couple, on a tendance à perdre de vue le fait qu'on peut vivre des choses seules et que ça peut être formidable. Donc, il fallait que je réactive, vous voyez, cet esprit-là de faire les choses pour moi. Et je crois que c'est souvent vrai pour les femmes. Elles ne font pas beaucoup de choses pour elles. C'est toujours pour l'autre ou les autres.
On voyage. Alors, vous aviez voyagé pour vos reportages, mais souvent vous étiez accompagné de techniciens. Vous aviez voyagé avec votre mari qui était critique de musique. Donc,
qui était un photographe. Alors, on était complémentaires.
C'est ça. En fait, on imagine que lors de vos voyages, l'un nourrissait l'autre de son centre d'intérêt. Vous, avec les population autochtone, et lui avec la musique et les photographies.
Oui, il s'appelait Alain Dister, et lui s'intéressait à la scène rock et aux populations marginales. Enfin, il était toujours un petit peu à sortir du cadre pour photographier ce qui se passait dans la coulisse, et il a photographié l'Amérique. On a publié récemment d'ailleurs un livre mémoire de son demi-siècle de regard sur l'Amérique, donc, qui s'appelle En Amérique, et on a assez souvent parcouru, et c'est vrai, ce continent. Je l'emmenais chez les Indiens, ouais. Et il m'emmenait chez les punks et chez les rockers.
C'est bien.
Et ça, c'était, on a eu des moments formidables. Du coup, quand on perd ce compagnonnage, c'est très très difficile. Mmh. En même temps, il faut réapprendre à nouer d'autres relations.
Pour autant, le voyage en solitaire a aussi ces vertus, hein. On le comprend en vous lisant.
Oui, énorme. Et je l'ai découvert, là, vraiment. C'est la faculté d'être vraiment poreux à l'autre. Et ça infléchit le comportement des autres par rapport à vous. Quand ils vous voient seuls, et notamment, toujours les cheveux blancs, la dame, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes toute seule, c'est bien raisonnable, etc. Et alors, il vous protège un peu. Ah ouais. Mais ma pauvre dame, mais vous n'avez pas de fait de réservation ce soir, on va vous indiquer, on a des amis qui ont un B&B formidable, etc. Ouais. Enfin, écoutez, voilà. Mais c'est surtout que l'état de voyage, ce qui est très important, c'est d'être ouvert à l'autre. Or, pour être ouvert à l'autre, on ne peut pas être en groupe comme font tant... Et ça me rend triste de voir, notamment dans Paris, en ce moment même, tellement de gens qui voyagent par paquets de 30 ou 40. Parce que flâner dans les rues de Paris seul ou à deux, c'est pas du tout la même chose que d'être à 40 derrière un parapluie. Mmh. Or là, ça veut dire que vous êtes ouvert, mais les gens ont un comportement différent. Et y a un esprit d'accueil qui se développe chez les autres. Du coup, il y a eu très beaux échanges avec des personnes que je rencontrais tout bêtement dans la rue.
Je vous propose d'écouter un de ces échanges. Vous arrivez à capter ce joli moment et ce récit assez précieux. Cette femme s'appelle Nika Collison, enseignante de langue Haïda. Et elle vous explique la valeur des chansons pour sa communauté.
Yangwa titaya kustus kanai
Songs are actually owned by.
Les chansons sont la propriété des individus et des clans des Premières Nations et vous avez besoin d'une autorisation pour les chanter. Historiquement, ça, c'était une des premières chansons qui appartenait aux Haïda, qui avait le droit de la chanter. Et comme les chansons sont très importantes dans le cadre de l'héritage culturel, eh bien, on pratique l'échange de chansons. Officiellement, cela se pratique toujours entre différentes cultures. Je vais vous chanter une chanson du colibri. Et ce chant du colibri, eh bien, nous l'avons échangé. C'est le peuple des Newchanult qui habite sur la côte ouest de l'île de Vancouver. Et nous avons échangé cette chanson contre une des nôtres.
Échange de chansons, c'est un cadeau qu'elle vous fait, cette femme. Pour obtenir cette confiance, puisque les chansons sont si précieuses, vous la chantez, c'est une preuve de confiance. Ça s'obtient en ayant la bonne attitude, en ayant le bon comportement, en allant vers ces gens.
Oui, il faut qu'il y ait une rencontre, un moment d'échange. Et effectivement, j'ai quand même souvent expliquer que j'étais une sorte d'interprète des cultures amérindiennes en France, enfin dans le monde de la presse et des médias, une sorte d'intermédiaire, si vous voulez. Et ça, ils l'ont bien compris, puisque quand on voyage et qu'on explique qu'on est journaliste, c'est aussi comme une carte de visite et qui vous ouvre les portes. Mmh. Je ne disais pas tout le temps que j'étais journaliste, mais quand je voyais que ça allait m'ouvrir une porte, je n'hésitez pas. Et donc, vous devenez un allié ou une alliée. Et ça s'est produit assez souvent. J'enregistrais, ils savaient que leurs paroles et leurs revendications et leur identité et ce à quoi ils sont attachés seraient relayées par à la fois l'écrit et par les sons que j'avais enregistrés auprès d'un public français.
Il y a des moments où ça n'a pas fonctionné, ou au moment où vous avez sorti le micro, au contraire ça...
Oui, alors parfois, oui. J'ai eu un cas où j'avais affaire à un homme qui vivait assez seul dans une petite île près de l'île de Kodiak. Donc là, c'est un peu le bout du bout.
Ouais.
Et je devais séjourner chez lui pendant 3 jours. C'était un personnage assez mystique, orthodoxe, puisque là, on est dans les cultures inuites. Il était très croyant, peut-être mal à l'aise avec les femmes. Et quand j'ai sorti le micro, pour un truc tout bête, il avait une cabane pour fumer le saumon absolument magnifique. Donc, je voulais qu'il m'explique la technique de comment on fume le saumon. Techniquement, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Avec quel bois, comment il fallait entretenir le feu, etc. Et alors, il est devenu furieux. Il m'a dit, rangez-moi ce truc-là, parce que j'avais sorti le petit
micro.
Magnétophone.
Ouais,
mais
ouais.
C'était un petit magnétophone de poche, gros comme un paquet de cigarettes. Et ouais. Ça l'a absolument révolté que je lui demande d'enregistrer. Voilà. Ouais. Ça, c'est un des rares moments. Puis, il y a des moments aussi où on sent que le courant passe pas. Ou alors, on sent qu'on est instrumentalisé pour la pub. Vous voyez, de quelqu'un.
Ça, c'est des choses auxquelles vous avez même assisté avec amusement. C'est-à-dire que il y a des gens, des autochtones, mais habillés comme n'importe qui de moderne aujourd'hui, mais qui, pour accueillir les touristes, finalement, leur jouent un peu une comédie selon leur culture.
Ils leur donnent ce qu'ils attendent.
Mais ça devient un peu Disneyland, quoi. Hein.
Oui, mais alors, moi, j'étais du côté des Amérindiens. J'étais là, je passais 2 jours donc dans une petite communauté chez les Tlingit. Et à un moment, quand un bateau est arrivé à l'horizon, donc ça se passe près de Juneau, donc la capitale de l'Alaska, et quand un bateau, c'est un de ces énormes bateaux de croisière, est arrivé à l'horizon, tous les gens avec qui j'étais disent « Ah les gars, il faut qu'on s'habille !» Alors ils se sont tous mis en tenue indienne, alors qu'ils étaient en tenue avec effectivement un t-shirt, etc. Ils se sont passés un anneau dans le nez, et tout d'un coup, moi j'étais de leur côté, donc ça m'amusait beaucoup. Et ils ont monté un spectacle qui était d'ailleurs pas quelque chose de malsain ou de moche. C'était une espèce de résumé de ce qu'était leur danse, leurs croyances et tout. Le vieux monsieur avec qui je parlais s'est présenté comme le chaman de la tribu. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'ils vendent leur image.
Bien sûr.
Et ça leur apporte de l'argent. Et cet argent leur sert à quelque chose.
Mais finalement, les touristes qui ont assisté à ça pensent avoir assisté à quelque chose de très authentique, alors que c'est un spectacle.
On a rencontré des vrais Indiens. On a vu des vrais danseurs indiennes.
Alors que vous avez rencontré des gens beaucoup plus vrais dans leur quotidien.
Oui, parce qu'ils sont mixtes modernité tradition. Alors c'est tout le travail, si vous voulez, c'est assez passionnant de voir comment on garde une partie de la tradition, mais on la met au contact et on la brasse avec la modernité, parce que la tradition, par exemple, de ces peuples de la côte nord-ouest, parce que faut pas non plus les idéaliser. Il y avait jusqu'à aux années 20 une tradition de l'esclavage, c'est-à-dire on allait chercher des captifs dans les populations voisines pour faire le boulot, et ils avaient des statuts d'esclaves. Donc, c'était pas forcément détendre à 100%.
Allez, nous poursuivons notre route avec vous, Marie-Hélène Freissé, jusqu'en Alaska. Là où nous allons, il sera question d'ours, de saumon, mais aussi de pétrole. Nous allons voir si tout ça fait bon ménage.
Mais que fait le roi? Help, balaye pour
C'était Jean-Louis Murat qui chantait Nana.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
C'est à 6 heures du matin qu'on débarque dans l'île de Kodiak. Le ferry a navigué toute la nuit pour franchir l'extrémité ouest du golfe d'Alaska en direction des Aléoutiennes. Le soleil se lève à peine, on sort un peu titubant des entrailles du ferry. Dans le port de Kodiak, les usines de poissons ronronnent à plein tuyau, le long des quais, les bateaux de pêche cinglent vers le large, tous feux allumés, car c'est la pleine saison du saumon en ce début août. Ce fameux saumon sauvage du Grand Nord-Ouest qui va nous arriver en Europe quelques semaines plus tard sous sa forme congelée.
Notre invitée, Marie-Hélène Fraissé, arrivant au petit matin sur l'île de Kodiak, sur la côte de l'Alaska. Ce sont des images que vous avez encore en tête, 10 ans après ce voyage, Marie-Hélène?
Ah oui, oui, d'autant que sur le quai m'attendait quelqu'un que j'aime beaucoup, Perry Eaton, qui est un sculpteur de l'île de Kodiak. Et le séjour sur l'île de Kodiak que j'ai fait effectuer avant la publication du Grand Marin, mais dans le même hôtel, est un des moments marquants. Une semaine à peu près, je suis restée. J'ai visité l'intérieur de l'île en hydravion. Alors c'est formidable parce que c'était un peu le, vous savez, là-bas, l'avion, c'est on le prend comme on prend son vélo pour faire ses courses. Hein, voilà.
Et on survole, c'est fort. Qui donne une couleur
magnifique.
Émeraude.
Oui, d'où le nom de voilà Emerald Island, l'île d'émeraude. C'est très très vert, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'Alaska, puisque maintenant on est en Alaska, on a commencé en Colombie-Britannique, on monte vers le nord et on va jusqu'en Alaska, qui est à la frontière des Aléoutiennes déjà. Donc on est presque en Russie déjà là. Et c'est un climat très humide et assez peu froid. Avec une mer, alors terrible l'hiver, et c'est un très très beau pays, c'est une très belle île.
Vous nous avez expliqué en début d'émission que les premiers à avoir colonisé ce territoire, ce sont les Russes. Mais alors, comment l'Alaska, cet État, est-il devenu américain après avoir...
C'est-à-dire les Russes ont réalisé que déjà ils avaient du mal à tenir la Sibérie et que là vraiment l'Alaska, il y avait quelques postes, il y avait les compagnies de fourrures qui périclitaient un peu parce que les fourrures commençaient à s'épuiser. Et là... la Russie a accepté de vendre donc l'Alaska, les territoires d'Alaska, qui étaient un peu incertains. D'ailleurs, on ne savait pas trop où ça commençait, où ça finissait, aux États-Unis. Donc, c'était en 1867. Et là, c'est resté pendant longtemps, avant de devenir un État, c'est resté presque un siècle, un territoire. Ouais. Quand on dit territoire, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, ça veut dire que c'est un endroit très peu peuplé, qui n'a pas encore le statut d'État ou de province.
Alors, c'est encore le cas. C'est encore un territoire assez sauvage, avec une densité de population très faible, comme c'est le cas d'ailleurs aussi pour la Colombie-Britannique, la partie canadienne de cette côte nord-ouest américaine. Mais ces terres ne sont pas épargnées tout de même par la mondialisation et l'accaparement des ressources naturelles. Voici ce que Wayne Alfred, un autochtone habitant à Vancouver, cette fois, donc on est retourné au Canada, vous dit au sujet des dégâts causés en un siècle par les Blancs.
Lorsqu'ils sont arrivés ici, il y avait des saumons en abondance. Il y avait tellement de saumons que ça ralentissait les bateaux. On pouvait marcher sur les saumons. Il y avait tellement d'arbres, sans parler des bisons qu'ils ont exterminés pour y mettre du bétail à la place. Et moi, mes ancêtres, pendant combien de temps ils sont occupés des saumons? Vous savez, les Indiens, il est très sauvage. Et ben, ils ont su s'occuper des saumons pendant des milliers d'années. Ils ont su gérer l'abondance. Eux, ils sont arrivés, ils ont tout détruit. construit. Nous, on ne construit pas un petit jardin avec une clôture. On n'est pas là à garder la clôture et détruire tout ce qui est autour. Ce n'est pas notre culture, ça. Ce n'est pas nous, ça. Le pétrole, c'est un problème aussi. Il n'y a plus de saumon, il n'y a plus de coquillages. Tout ça pour faire passer le pétrole à la Chine. C'est que le pognon, que l'argent. Et une fois que tout a disparu, eh bien, l'homme blanc va se rendre compte qu'on ne peut pas manger l'argent. Réveillez-vous. Réveillez-vous, nos terres ne sont pas à vendre.
Marie-Hélène Freyssé, ça ce sont des mots forts que vous avez recueillis, et c'est vrai qu'il est bon qu'on les entende. Quelle est la situation exactement de ces territoires du point de vue de l'écologie, de la destruction de ces ressources naturelles?
Alors ce sont des territoires qui sont dans une situation contradictoire, parce que notamment l'État d'Alaska, mais c'est vrai aussi dans une certaine mesure dans la partie canadienne, en Colombie-Britannique, ces territoires reversent des subventions importantes à leurs habitants, en fonction de l'exploitation minière et pétrolière.
C'est-à-dire que, par exemple, sur l'île de Kodiak, il n'y a pas de pétrole, mais par contre, on touche de l'argent du pétrole qui est exploité sur
l'Alaska. Par ailleurs, oui, parce qu'il y a un statut très complexe. Alors, on n'a pas trop le temps de l'expliquer, mais les autochtones, comme ils ont négocié leurs droits territoriaux beaucoup plus tard que les Indiens des Plaines, par exemple, quasiment un siècle plus tard, c'est-à-dire au XXe siècle, ils ont obtenu, puisque c'était des terres dont la réglementation n'était pas effectuée. Je veux dire, il y avait un pipeline notamment énorme qui traversait depuis les gisements de la mer de Beaufort vers le sud. Ça traversait des territoires indiens qui n'avaient jamais été négociés, donc qui effectivement, en fonction du droit international, appartenaient aux communautés autochtones. Donc il y a eu un vaste chantier juridique qui a abouti sur l'établissement de sociétés autochtones par action, c'est-à-dire les 13 sociétés autochtones sont propriétaires du territoire cèdent donc, moyennant finance, le droit d'exploitation, etc. Avec, en ce qui concerne Kodiak, aussi des aspects intéressants, c'est que c'est pas très très riche l'île de Kodiak, il n'y a pas de ressources pétrolières, il y en a dans d'autres communautés autochtones, et il y a une redistribution à l'intérieur. Et ça, c'est assez formidable. C'est-à-dire que celles parmi ces 13 sociétés autochtones qui ont vraiment le pactole du nord du pétrole et du gaz, reversent aux autres sociétés autochtones des dividendes. Donc c'est cette idée du partage qui est profondément imprimé à l'intérieur des consciences autochtones, c'est que on partage. On peut être dominant, mais le dominant, c'est justement celui qui a le plus grand devoir de redistribution. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans notre système à nous. Et celui qui thésaurise sans redistribuer, mais c'est le dernier des nuls et il perd tout prestige.
Ouais, il y a de quoi s'inspirer. Allez, suite et fin de notre voyage avec vous, Marie-Hélène Freyssé. Nous allons revenir avec vous sur quelques voyageurs illustres que vous avez eu la chance d'interviewer dans votre longue carrière de journaliste passionné de voyage.
Syndicate. Let's dinner. Sons and daughters of Dracula talking in riddles and glass chisels. I'll try to a lowbrow like puppy. Spit on you from his balcony. Slice of lemon cherry pie.
So what? I'm never gonna be like you. This world you occupy in these crowds. Different.
swell up, street stirl up, Duracell up, fuck swell up, fucking leg swell up, treat smell up, fucking tree swell, cousin pain up, wheat well. And I tell you so many times, I slice the lemon for your tea, baby.
So I'm never gonna be like you. This world you occupy in these crowded rooms. So I'm never gonna be like you. This world you
C'était Baxter Dury qui chantait Crowded Rooms sur France Inter. Et merci à Djoubaka qui signe notre programmation musicale.
Nicolas Bouvier, nous allons bientôt savoir si le voyage vous a réellement défait. Ce n'est pas en tout cas l'impression que vous donnez. On croit qu'on fait un voyage, mais c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Est-ce que vous êtes toujours dans cette petite tonalité un peu amère par rapport au voyage ?
Je dirais qu'elle est devenue plus amère même, parce que je trouve que voyager comme je le faisais, maintenant je continue à voyager mais d'une façon beaucoup plus confortable parce que physiquement j'ai quand même vieilli, c'est pas du tout une activité innocente, ça vous brûle un peu les nerfs, mais je crois qu'il faut aussi voyager, les boxeurs diraient en garde basse. Alors on prend des nions mais on reçoit aussi des cadeaux. Si on voyage en garde haute, autant rester chez soi.
La voix de Nicolas Bouvier résonne à nouveau dans le temps d'un bivouac. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de parler de cet écrivain voyageur jeudi dernier, mais on ne pouvait pas passer à côté de cette occasion de l'entendre à nouveau. Marie-Hélène Fraissé, vous avez créé et animé plusieurs émissions sur le thème du voyage pour France Culture, Tout un monde, L'usage du monde, L'échappée belle. Et vous avez eu donc le plaisir d'interviewer à plusieurs reprises, c'était vous qui l'interviewez là, Nicolas Bouvier. Quel souvenir vous gardez de ces rencontres ?
Bah justement, L'usage du monde, c'est lui qui m'a donné ce titre, puisqu'il m'a demandé l'autorisation d'utiliser L'échappée belle pour un livre.
Ah, formidable. C'était échange de bons procédés.
Absolument, il m'a téléphoné en me disant Marie-Hélène, avec son accent suisse. Et c'était, bon, ça reste un magnifique écrivain du voyage, avec effectivement cette petite touche d'amertume et à laquelle pourrait s'ajouter celle-ci, c'est que la traversée de l'Asie, telle que l'a faite Nicolas Bouvier dans L'usage du monde, serait aujourd'hui totalement impossible. Mmh. Le monde s'est refermé, les frontières sont tombées et la liberté d'aller et de venir est très inférieure à ce qu'elle était il y a un demi-siècle.
Mmh. Autre grand voyageur que vous avez eu la chance de recevoir, Jacques Lacarrière, passionné de marche, connu pour ses récits de voyage et sa passion pour la Grèce où il a longuement séjourné.
Quand je suis revenu de Grèce, je me suis dit il faut que je me réconcilie avec ce pays, avec la France, enfin que je connais plus, que j'ai oublié, que j'ai délaissé. Je me suis dit je vais repartir à zéro. Il faut que je trouve quelque chose qui me permette de repartir autrement, de revivre ici autrement, de reconnaître ce pays. Alors je me suis dit qu'au fond, comme j'aime beaucoup marcher, que j'ai souvent fait, je suis parti comme ça, c'est-à-dire que j'avais décidé de traverser la France pour changer ma vie, puis ça fait du bien de partir à zéro comme ça, de rencontrer des inconnus tous les jours, de vivre complètement en nomade. Ça a été intérieurement passionnant parce que ça m'a redonné le goût de la liberté, de l'anonymat. On est complètement perdu, personne ne vous connaît, on n'a pas de courrier pendant des mois, pas d'informations. Ça m'a fait énormément de bien.
Extrait de votre émission L'échappée belle en 1986, Marie-Hélène Fraissé. Il y a, je trouve, des points communs entre ce qu'il dit et ce que vous êtes allé chercher sur votre route en Alaska.
Oui, parce qu'au fond, c'est lui qui a inventé la diagonale du vide, la carrière. Et cette porosité du voyageur aux autres, cette improvisation constante, et puis avec une dimension qui est celle de la carrière, qui est quand même une dimension, je dirais pas mystique, mais il avait coutume d'appeler cet appel, de nommer cet appel métaphysique, enfin ce sentiment d'être dans le grand tout, il appelait ça l'immense, avec un grand I. Et je trouve ça très beau, parce que c'est ce qui vous saisit quand vous êtes aussi dans des lieux de grande nature, et c'est le cas en Alaska, quand on voit ces glaciers, qu'on voit cette faune, qu'on voit toute cette nature sauvage. Eh bien, Jacques Lacarrière appelait ça la perception. Alors, est-ce que c'est une intuition métaphysique? Je sais pas, mais la perception de l'immense, oui. Et c'est profondément rassurant parce qu'on en fait partie.
Vous avez aussi, Marie-Hélène Freyssinet, interviewé un peu plus récemment Annick Cogent, grand reporter au Monde, qui vous a raconté sa rencontre avec des Inuits.
On débarque là, on ne connaît pas les gens et c'est pas facile, on ne nous attend pas, on ne nous voit pas d'un œil très positif d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que moi, en peu de temps, il va falloir que je les comprenne, que je ressente. Et puis d'aller dans une cour de tribunal, parce qu'il y a un petit tribunal itinérant, passer une matinée là, et puis demander à aller dans une école, et puis simplement aller à différents cours, et d'aller un dimanche matin à l'hôpital, peut-être qu'il va y passer des gens, on sait jamais, peut-être quelqu'un acceptera de me parler. J'ose même pas dire essayer de faire partie de la communauté, parce que c'est pas vrai, j'ai pas fait partie de cette communauté en 15 jours où je suis restée dans un village, mais j'essaie de qu'on me voit avec une espèce de douceur, quoi. Elle est là, et peut-être qu'elle s'intéresse vraiment à nous, et elle a en tout cas le désir de partager des choses avec nous.
Annick Cogent à votre micro, Marie-Hélène Freyssinet en 1998 dans L'Usage du Monde. On a évidemment choisi des extraits qui rentraient en écho avec votre voyage à chaque fois. Vous vous reconnaissez dans ces mots?
Oui, Annick Cogent, elle illustre, comme Florence Aubenas et beaucoup d'autres, à la fois le journalisme de terrain qui est absolument indispensable et aussi le regard féminin sur le monde. Mais ce journalisme de terrain, je voudrais vraiment y insister parce que quand on écoute les infos, on entend la même une partout dans tous les médias. On entend des informations virales qui ne sont absolument pas vérifiées. Quand on connaît un sujet, on est toujours très étonné de voir qu'il y a des informations virales qui circulent. Le journalisme de terrain est là pour rencontrer les gens. Et on le voit bien avec ce qui se passe en Ukraine en ce moment, si vous voulez. Il y a quelques femmes, notamment, qui nous ont rapporté des éléments d'information parce qu'elles étaient sur place. Et parfois, ça contredit les idées reçues. Donc, célébrons ce journalisme qui ne fonctionne pas à partir d'Internet et des nouvelles qui circulent, qui est en contact avec les gens, en contact avec la réalité du monde, qui est toujours beaucoup plus complexe qu'on ne le dit partout.
Pour revenir en une minute sur votre voyage en Alaska, hein, vous l'avez fait, vous le dites, on l'a dit, il y a 10 ans. Qu'est-ce qui vous en reste aujourd'hui de ce... Alors le livre vient de sortir, hein, vous avez mis 10 ans, il a fallu 10 ans pour qu'il réémerge.
Oui, je l'ai mûri.
Vous l'avez mûri, mais
je l'ai refait.
C'est ça. Qu'est-ce qui vous reste de ce voyage aujourd'hui?
Il continue de me nourrir et d'une certaine manière, le regard que j'ai pu développer dans ce voyage en solitaire, en longue durée et en toute liberté, il nourrit aussi mon regard sur l'ici et maintenant. Vous voyez, sur la France, sur mon quotidien, face à un jardin qui, tous les jours, m'offre un regard nouveau, l'importance de l'amitié, du lien, de la fidélité, c'est-à-dire les valeurs dont j'ai ressenti la priorité dans ce voyage, l'essentialité, continuent de m'habiter. Je pense que c'est une expérience où ça vous savez, autrefois, le pèlerinage, vous savez, religieux qu'on faisait, ou le voyage d'Italie, on en revenait changé. Et je pense que c'est le vrai but du voyage, c'est-à-dire qu'on ne doit plus être tout à fait la même personne au retour, sinon à quoi bon voyager?
Merci Marie-Hélène Freyssinet pour cette très jolie conclusion. Je rappelle le titre de votre livre « Alaska, l'ultime frontière » aux éditions Albin Michel. Un grand merci à vous d'être passé nous voir, Marie-Hélène.
Merci Daniel.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast sur franceinter.fr ou avec l'appli Radio France. Et pour nous laisser un message, il y a bien sûr nos pages Instagram et Facebook. Demain, je vous raconterai une histoire vraie de naufragé qui a marqué l'histoire de France. Celle de l'infernale dérive du radeau de la Méduse. À demain donc pour de nouvelles aventures. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec Philippe Collin pour sa série Face à l'Histoire, deuxième épisode aujourd'hui de sa série consacrée à Simone de Beauvoir.